qu'on peut ensemble ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs? Je l'ai dit tout à l'heure en introduction aux annonces, nous sommes rendus à notre dernier culte de l'année 2017, après 365 jours de hauts et de bas, de luttes et de combats. Mais grâce soit rendue à Dieu, on est debout. Dernier culte, dernier message pour cette année aussi, pour moi, en 2017, pour l'année 2017. Et pour la circonstance, j'aimerais partager un passage qui a retenu toute mon attention ces jours-ci. C'est le grand roi David qui, par une louange, va s'exprimer à Dieu devant toute l'Assemblée, d'Israël. Et pour ce faire, je vous propose de lire 1 Chronique, chapitre 29, juste 2 versets, du verset 10 au verset 12. 1 Chronique, chapitre 29, du verset 10 jusqu'au verset 12, et nous lisons ensemble. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée, et il dit: « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père, Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. » Et je crois vraiment que Dieu a des projets et des desseins bien arrêté pour l'église d'Istres, pour notre église locale. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Je crois même des projets, des desseins qui, je le crois, échappent même à notre entendement et même à notre pensée. Un peu comme le peuple hébreu, lorsqu'il était encore en captivité, Dieu, dans son amour, a envoyé un grand libérateur, bien sous le nom de Moïse, et qui est venu libérer ce peuple. Mais ce peuple, en sortant du pays d'Égypte, était à des lieux de penser que Dieu, par sa main toute puissante, les amenait vers une terre promise, vers la Canaan, lieu là où coule le lait et le miel. Et j'ai l'impression que pour cette année 2018, qui va bientôt commencer, Dieu désire aussi nous conduire vers de nouveaux horizons. Il désire nous conduire vers des choses encore plus glorieuses que celles que nous avons connues jusqu'à présent. Et on peut le comprendre parce que de toute façon, le meilleur est encore à venir. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour glorieux du Seigneur. Alors là, ce sera l'apothéose. Fini les luttes, fini les pleurs, fini les combats, les moments de deuil. La Bible nous dit, il n'y aura plus de larmes, plus de pleurs là-haut dans ce ciel de gloire que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Oui, le Seigneur, il a de nouveaux horizons pour l'Église d'Istres. Mais cela, et on l'a lu, ne peut se faire que par la puissante main de Dieu. On l'a lu, c'est dans la main de Dieu que réside la force et la puissance. Et au verset 12, il est dit aussi que la main de Dieu a le pouvoir d'agrandir. Et il a aussi le pouvoir d'affermir toutes choses. Et c'est sur ce point-là que j'aimerais, ce matin, que l'on puisse quelque peu s'arrêter. Dieu a non seulement le pouvoir d'agrandir ou d'affermir, mais il a aussi la volonté, il a le désir. Et il le désire pour cette église qu'il a rachetée. Chacun d'entre nous, nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Dieu a bien des choses qu'il voudrait, par sa main puissante, agrandir, affermir pour nous. Et je voudrais, si vous le permettez, en citer quelques-unes ce matin. Commençons par ce que Dieu désire agrandir en nous. Nous l'avons vu, Dieu peut agrandir toutes choses. Et quand il dit toutes choses, c'est vraiment toutes choses. Dieu, par exemple, peut agrandir cette église au niveau effectif. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de faire tomber ce pan de mur et puis agrandir parce qu'on a un problème de chaises? Ce n'est pas étonnant, puisque du temps des premiers disciples et de ce jour précis, le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est descendu de manière particulière, Pierre et les apôtres ont découvert la naissance d'une église en un jour. 3000 âmes se sont converties. Rien n'est impossible à Dieu. Et on l'a lu avec force. Et David, avec le peu de connaissances qu'il avait à l'époque, à bien sûr reconnaître la toute-puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de nous faire vivre un réveil. Il est capable de nous permettre de voir même toute la ville d'Istres être à l'entrée et supplier Dieu en se frappant à la poitrine. On veut connaître votre Dieu. Il nous sera fait aussi selon notre foi. Dieu peut aussi agrandir votre famille. Je souris, hein ? Il y a quelque chose dans le ventre de mon épouse. Dieu peut faire quoi encore ? Il peut accroître vos finances ? Vous croyez que le Seigneur, il parle ? Dieu peut bénir. C'est le Dieu, alléluia, à qui rien n'est impossible. Il peut aussi faire grandir quoi ? Notre connaissance, il peut faire grandir notre foi, il peut faire grandir notre fidélité, notre attachement au Seigneur. Il peut nous donner, avoir notre zèle, grandir. Et on a besoin d'être zélé plus que jamais, parce que le Seigneur du haut de son trône regarde ses enfants et je voudrais qu'il voit l'église d'Istres avec fierté. Oui, Dieu peut par sa toute puissance agrandir toutes choses pour nous. Mais il y a peut-être deux choses en particulier que le Seigneur aimerait agrandir en chacun d'entre nous. Et je me permets de les citer ce matin pour vous. Il veut tout d'abord agrandir notre champ de vision. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? On a besoin que notre champ de vision puisse pleinement s'élargir. Notre champ de vision, malheureusement, bien souvent peut être restreint à nos propres besoins, à notre propre bien-être. Il y a des personnes, lorsque vous les entendez parler, c'est justement, toutes leurs paroles tournent autour de ce qu'ils ont besoin, de leurs souffrances, de leurs problèmes, de leurs peines. Et en fait, finalement, leur vision est centrée uniquement sur leur propre personne et leur propre intérêt. Et je crois que ce matin, Dieu notre Père Céleste désire que notre vision s'élargisse aussi sur la recherche du bien-être de l'autre. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? C'est important. Et c'est en cela, d'ailleurs, que nous deviendrons les uns et les autres des hommes et des femmes matures. On est un enfant spirituellement, un enfant immature quand on se cantonne, quand on vient à l'église uniquement pour recevoir. Mais il y a une autre dimension à laquelle Dieu nous appelle, que nous puissions devenir des hommes, des femmes, des pères, des mères, pourquoi pas, pour le reste des frères et des sœurs. Et lorsqu'on est mature, lorsqu'on est qu'on a compris cette autre dimension, lorsqu'on est entré dans ce champ de vision, on ne vient pas tant pour recevoir, on vient avant tout pour donner. Le seul souci qu'on a, c'est comment, Seigneur, je peux être utile pour mon frère, pour ma sœur. Et puis, de toute façon, ces personnes-là, ils ont compris, tout simplement que lorsqu'on donne, on reçoit en retour. Et puis, autre part, il est dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et je prie Dieu pour que nous puissions entrer dans cette maturité, que notre champ de vision puisse s'ouvrir sur le besoin de notre frère, de notre sœur qui est à nos côtés. Notre champ de vision a besoin de s'élargir, parce que quelquefois il est restreint uniquement à notre salut personnel, à notre vie chrétienne. Excusez-moi, mais des personnes viennent uniquement pour prendre leur pain et leur vin, etc., et repartir sitôt la réunion est finie, etc. Mais voilà, ça s'arrête à cela. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Oui, merci Seigneur, parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur, parce qu'un jour, il nous a rencontrés. Ça fait cette année 30 ans que je marche avec le Seigneur. Et je le fais avec fierté. Et je sais que si je suis debout, c'est par la grâce de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Le vôtre également, ne vous inquiétez pas. Et ce qui est glorieux, c'est que le Seigneur, en plus, nous a préparé une place là-haut dans le ciel. Est-ce que je serai à côté du frère Manu ? Je ne sais pas. Est-ce que je serai à côté d'Éric ? Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est être dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent même, qui nous attendent là-haut. Et on peut se réjouir, alléluia, de ce qui est à venir. Mais Dieu désire que notre champ de vision puisse s'élargir sur, bien sûr, le salut des âmes perdues. Le Seigneur voudrait nous apprendre à voir comme lui, il voit. C'est à un moment donné ce qu'il a voulu faire auprès de ses disciples. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 4 et verset 35, Jésus était avec ses disciples, certainement auprès de champs, et il va dire à ses disciples, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. » pour la moisson. Et on l'a compris tous, il ne parlait pas, il ne faisait pas mention ici, bien sûr, des champs physiques, parce qu'effectivement, il restait encore 4 mois avant eh bien, de procéder à la récolte. Il parlait de quoi ? Il parlait de champs au sens figuré, il parlait de champs spirituels. Et ces champs, ce sont ni plus ni moins eh bien, cette grande moisson d'âmes que le Seigneur a besoin de faire entrer encore dans la bergerie. Il y a encore des hommes, des femmes, des Istriens, des Istriennes qui ont besoin eh bien, de grossir, d'agrandir. Alléluia, la grande famille que nous formons en Jésus-Christ. Et pour cela, eh bien, le Seigneur nous invite à lever les yeux et à regarder. Peut-être arrêter de regarder sur notre propre nombril, mais lever les yeux et regarder tous ces besoins qui nous entourent. Ces hommes, ces femmes, quelquefois cachés du regard, mais parce que Dieu nous donnera par son Esprit Saint le discernement, eh bien, d'arriver à voir dans leur âme ces larmes qui coulent au plus profond d'eux-mêmes. Il y a des personnes qui sont en souffrance. Peut-être des personnes que vous rencontrez, que vous saluez chaque jour. Bonjour, bonjour. Toutes les mêmes politesses, les mêmes choses. Mais qui sont en souffrance. Des personnes qui se disent, mais à quoi bon vivre ? Je n'ai plus rien à espérer dans ce monde. Et certains vont même à passer l'acte. Pensant que peut-être dans l'au-delà, il y aura mieux pour eux dans leur situation. On a besoin de leur communiquer ce message d'espoir. On a besoin d'avoir les yeux ouverts. Jésus invitait ses disciples à prendre de la hauteur spirituelle afin de discerner les champs spirituels qui sont prêts à être moissonnés. Le grand champ, c'est bien sûr le monde qui nous entoure. Ce sont ces âmes qui sont eh bien, par milliers ignorants. Quand on fait le sondage sur les croyances tous les 2 dimanches de chaque mois, on voit les personnes combien elles sont ignorantes de qui est Dieu. Ils sont loin d'imaginer qu'il y a un Dieu d'amour qui n'a de cesse eh bien, de frapper à la porte de leur cœur afin qu'ils puissent voir une transformation radicale dans leur vie. Et ils ont besoin d'être éclairés eh bien, par notre personne. C'est pourquoi nous, chrétiens, levons aussi nos yeux et permettons au Seigneur d'élargir notre vision afin que nous considérions tous ces âmes autour de nous qui sont sans espérance et sans Dieu. Permettons au Saint-Esprit qu'il nous donne véritablement un fardeau véritable pour ceux qui nous entourent, à commencer par les membres de nos familles qui sont inconvertis et qui ont besoin eh bien, de la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit nous donne un réel fardeau des âmes afin que eh bien, nous puissions les uns et les autres durant toute cette année 2018 peut-être fléchir le genou comme on l'a chanté tout à l'heure. Et supplier Dieu à bien que l'ensemble de notre famille soit sauvée, parce que la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La vision qui doit animer notre Église, c'est celle qui consiste à travailler pour le salut des âmes. C'est d'ailleurs la vision, la grande vision, qui a accompagné le Seigneur Jésus tout au long de sa marche ici-bas sous cette terre. C'est cette grande vision aussi qui l'a conduit à livrer sa vie sur la croix, par amour pour nous. Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 19 et le verset 10, cette déclaration, il dit de lui, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et il faut que l'Église d'Istre s'emploie davantage à travailler, frères et sœurs, au salut du perdu. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas. Béni soit Dieu pour nos réunions d'évangélisation, et je reviens sur ce que j'ai dit lors des annonces, on a besoin de s'impliquer davantage eh bien, pour demander au Seigneur qu'il puisse toucher à salut ces hommes et ces femmes qui, s'ils ne se tournent pas vers Dieu, vont connaître les tourments éternels, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans les églises, on dit « bon, il faut éviter de parler de l'enfer, etc. » Mais c'est une réalité. Et j'aime à le dire, au départ, l'enfer n'était pas réservé pour le diable, et n'était pas réservé pour les hommes, mais était réservé au contraire pour le diable et pour ses anges. Ce n'était pas un lieu pour la plus grande et la plus belle des créatures de Dieu. Mais si ces gens, si ces hommes, ces femmes que nous côtoyons ne se tournent pas vers Dieu, ils iront malheureusement dans ce lieu de tourment où ils souffriront éternellement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et nous croyons en cette parole. Il y a un lieu qu'on appelle eh bien, un lieu de tourment, où il y aura des grincements de dents. On appelle aussi ce lieu la géhenne, où il y aura une opprobre éternelle, parce qu'on aura offensé un Dieu éternel. Et on a surtout, eh bien, parce qu'on aura surtout méprisé la grâce de Dieu qui est gratuite. Une grâce, c'est quoi ? C'est une faveur imméritée. Dieu donne le salut. il le propose. Et c'est ce qu'on a besoin d'expliquer aux gens. Et il faut que l'Église d'Istre s'emploie davantage à travailler au salut des perdus. Et c'est ce que nous ferons. S'il y avait une vision à donner à cette Église pour cette année 2018, c'est que nous allons nous appliquer à évangéliser de mieux en mieux, de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce programme? Est-ce que nous sommes en conformité à ce que Dieu nous demande? On le fait déjà au travers des réunions d'évangélisation, on le fait au travers des stands bibliques. Je suis très fier, autant que je peux, d'être aux côtés de Roland, avec toute l'équipe qui est là, avec lui, pour interpeller ces gens. Combien d'évangiles nous avons distribués? Ce serait bien qu'on puisse voir et faire le quota sur une année, combien d'évangiles. Un évangile dans une maison, on ne sait pas ce que cela peut produire. Il n'y a que Dieu qui le sait. Faire encore des percées au niveau des sondages, aller au-devant des gens. Il y a des chrétiens qui ont la crainte. Tant qu'ils sont avec les frères et les sœurs, ils sont en sécurité. Mais dès qu'ils sortent de l'église, ils ont une certaine crainte. Et cette crainte, il faut la bannir. C'est même plus la crainte, c'est une forme de timidité. Mais la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que l'Esprit de Dieu agrandisse notre champ de vision pour que nous puissions voir le prochain, quel qu'il soit, comme une âme que Dieu veut potentiellement, que Dieu désire pleinement et ardemment sauver. Amen, frères et sœurs. Voilà une première chose que Dieu veut agrandir, notre champ de vision. Mais il y a peut-être une deuxième chose que Dieu désire agrandir dans chacune de nos vies. C'est quoi? Pardon? La foi, oui, c'est vrai. Ça aurait pu être ça, mais ce n'est pas ça. Amen. L'amour. Mais c'est intimement lié, parce que notre foi, elle est agissante par notre amour. Et nous avons tous besoin de voir notre amour grandir de plus en plus. J'ai envie de dire en quantité, mais aussi en qualité. Afin que notre amour, par exemple, ne soit pas discriminatoire. On le sait, Jésus avait un amour si grand, si large, qu'il était en mesure de pouvoir accueillir tous ceux qui venaient à lui. J'ai mis là sur mes notes que les publicains, par exemple, venaient à lui. Qui étaient les publicains? C'étaient ces gens qui étaient considérés comme le reste des compatriotes, comme des collabos de l'occupant romain. Mais Jésus les accueillait, ces gens-là. Jésus accueillait même les lépreux, qui étaient considérés comme des maudits. On disait que quelqu'un qui avait la lèpre à l'époque était littéralement rejeté par Dieu, et c'est comme si Dieu avait craché sur lui. Mais Jésus accueillait également les lépreux. Il accueillait également les Samaritains. Et il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs n'avaient aucune relation. Il était interdit d'avoir une relation avec un Samaritain. Même les productions des Samaritains, il ne fallait pas y toucher. C'était tout aussi impur que la viande de porc. Mais Jésus accueillait également les Samaritains. Je relisais quelques passages de l'Évangile et j'ai fait attention à un passage, je ne l'ai pas mis sur les versets à citer, mais dans Matthieu chapitre 9, verset 10, il nous est dit que les gens de mauvaise vie venaient s'asseoir auprès de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui allait s'asseoir auprès des gens de mauvaise vie, c'est les gens de mauvaise vie qui venaient s'asseoir. Parce que ces gens de mauvaise vie, quand ils étaient auprès de Jésus, sentaient cet amour qui les rassurait. Et il est important que nous puissions aussi mettre à l'aise les gens, quels qu'ils soient, quelle que soit la noirceur de leur péché, qu'ils soient à l'aise quand ils viennent à côté de nous, qu'ils soient rassurés, qu'ils ne voient pas un regard culpabilisant. Oui, ça a été projeté, merci. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Et il est important que nous permettions aux Istriens, aux Istriennes, à nos amis, même à nos ennemis, à venir à notre table, la table de notre cœur, vous l'avez compris. Et leur faire ressentir l'amour profond, l'amour de notre Seigneur. J'ai une question à nous poser. Ne nous est-il pas déjà arrivé de faire exception des personnes? Ne nous est-il pas déjà arrivé d'user de discrimination? Ne nous est-il pas aussi arrivé même de vivre certains favoritismes? Notre amour ne doit pas être sélectif. Notre amour ne doit pas être l'exclusivité d'un groupe d'amis qui pourrait se trouver dans l'église locale. Amen ou pas amen, frères et sœurs? Pourquoi? Parce qu'on forme tous une seule et même famille. Nous formons le corps spirituel de Christ et on a besoin de se connaître les uns les autres. C'est pour ça que je le dis et j'aime à le redire. Nos agapes sont tout autant spirituelles que les temps de prière. parce qu'au travers de ces moments-là, je prends le temps d'apprécier le frère, la sœur, de le découvrir. J'arrive encore, surtout à la fin de cette année, à entendre des personnes me dire « Mais c'est qui un tel ? C'est qui une telle ?» Pourtant, ils sont là depuis des années dans la même église. Hein. Et l'agape, eh bien, sert à ça, à développer la communion fraternelle, d'apprendre à nous connaître et d'affermir bien sûr l'unité spirituelle entre nous. Pas ici, heureusement, je le dis, mais un jour, un chrétien m'a dit, sans aucune gêne, et c'est ça qui m'a gêné, je fais un jeu de mots, qu'il n'aimait pas certaines races de personnes. Frère, se peut-il qu'il existe de telles choses honteuses dans l'Église de Jésus-Christ ? Et je me permets de le dire, si dans cet auditoire, il y aurait certaines personnes qui auraient ce problème lié aux races, si quelqu'un souffrirait, eh bien, parce que c'est bien une souffrance, c'est bien une maladie spirituelle, eh bien, de vivre quelques racismes. Mon frère, ma sœur, place-toi devant Dieu. Et le Dieu de grâce, eh bien, non seulement t'accueillera, mais en retour, alléluia, te donnera d'être débordant d'amour. Parce qu'il y a une réalité, et j'aimerais eh bien, le replacer devant vos yeux, 1 Jean chapitre 4, les versets 7 et 8. Il y a des versets dans la Bible qui sont incontournables, et c'est l'apôtre Jean, lui, qui au départ était désigné comme le fils du tonnerre, a bien changé aux côtés du Seigneur Jésus et va dire la chose suivante dans l'une de ses épîtres. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est amour. » Le verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Frères et sœurs, si tu as un problème d'amour, si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, je préfère te le dire, je suis votre pasteur et je suis tenu de vous dire la vérité. Vous avez besoin de vous tenir devant Dieu, vous avez besoin de vous repentir et dire « Seigneur, transforme-moi et donne-moi cet amour eh bien, qui t'animait et alléluia et qui te caractérisait si parfaitement. » Amen, frères et sœurs. L'amour de Dieu nous permet d'accueillir avec largesse toutes les races d'individus. C'est certain, nous avons tous besoin, les uns les autres, de faire des progrès dans notre amour, qu'il soit beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus fort à l'égard des uns et des autres. Il y a ce passage dans 1 Corinthiens 13, j'ai quelque peu souri parce qu'il était aussi sur mes notes ce passage, 1 Corinthiens chapitre 13, et je me permets de reciter ce verset, c'est à croire que le Saint-Esprit voudrait eh bien, que ces choses soient imprimées. Voilà l'amour qui a besoin de grandir dans nos vies, à commencer par moi, frères et sœurs, je ne m'exclus pas, mais on a besoin de faire des progrès. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il se réjouit de la vérité. Verset 7, et c'est là, c'est l'apothéose, le côté catégorique de l'amour qui vient d'en haut, l'amour de Dieu. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. Si nous, les croyants, ne croyons plus, alors qui va croire ? Si l'Église ne croit plus au miracle, qui va le croire ? Vous allez demander aux inconvertis de croire si nous ne croyons pas. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Un homme, une femme peut changer. Si Dieu a tendu la main jusqu'au bout avec des personnes terribles, on a besoin aussi eh bien, de le ressembler et espérer tout. Parce que l'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Tu es exaspéré ? Mais tu n'es même pas au courant, le Seigneur il continue à prendre patience à ton égard, sur des domaines peut-être même que tu ignores encore. Parce que chaque jour qui passe, eh bien, nous nous approchons du Seigneur et Dieu relève encore dans nos vies des choses qui ont besoin d'être changées. Et c'est bel et bien la patience de Dieu qui nous aide à rester debout. Dieu est patient à notre égard, je ne le saurais pas, à l'égard de mon frère ou de ma sœur. Grandir dans l'amour, c'est se rapprocher du caractère et de la personne de Jésus. Grandir dans l'amour, c'est laisser Jésus transparaître au travers de nous. Et je crois que nous avons tous besoin, frères et sœurs, de faire des progrès dans notre amour les uns pour les autres. C'est pourquoi, tout comme l'apôtre Paul, qui en son temps a exprimé cette prière à l'égard des chrétiens de l'église des Thessaloniciens, nous avons besoin de faire pareil. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. « Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. » Et il faut croire que cet amour dans cette église de Thessalonique a quelque peu a bien grandi, puisque dans la deuxième épître adressée aux chrétiens qui se trouvaient à Thessalonique, il nous est dit, de Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, l'apôtre Paul qui dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous, à l'égard des autres, diminue, augmente de plus en plus. » Frères et sœurs, mon vœu, parce qu'on peut exprimer des vœux à l'aube d'une nouvelle année, mon vœu, c'est que l'amour soit évident dans cette église d'Istres. C'est que l'amour de Dieu soit palpable, soit concret, surtout pour les gens de l'extérieur. Parce que Jésus a dit, si tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à développer de plus en plus cet amour les uns pour les autres. Je voudrais terminer. On l'a lu au début. Il était fait question que Dieu a le pouvoir d'agrandir, mais je crois qu'il a aussi le pouvoir d'affermir. Et il y a bien des choses que Dieu aimerait aussi affermir bien dans chacune de nos vies. Nous allons bientôt entrer dans une nouvelle année, et Dieu seul sait ce qui va nous attendre durant cette année 2018. On le sait, et sans être pessimiste, les choses n'iront pas en s'améliorant dans ce bas monde. Et on le voit bien, les ténèbres s'épaississent, littéralement. Et c'est important, je le disais dernièrement, de pouvoir suivre aussi les informations, voir aussi l'évolution des choses. Et les choses s'accélèrent. Et on voit que l'ennemi, de manière aussi particulière, s'acharne sur l'église de Jésus-Christ, frères et sœurs. Il ne s'acharne pas sur ceux qui lui appartiennent déjà. Il s'acharne sur l'église de Jésus-Christ. Une question. Combien de croyants cette année, ici en France ou ailleurs, ont abandonné les voies droites de Dieu? Peut-être vous en connaissez. Les gens qui ont jeté l'éponge, qui ont abandonné la foi. D'ailleurs, l'apostasie, et ni plus ni moins, c'est l'abandon de la foi, et ni plus ni moins un des signes précurseurs du retour du Seigneur. Le Seigneur, il est à la porte. On se rend compte qu'il y a quelque peu de la tiédeur, ça rejoint un petit peu le don spirituel qui a été dit tout à l'heure, que de légèreté. On peut venir même à l'église comme à l'habitude et on se permet des choses parce que au nom de l'amour de Dieu. Mais Dieu est un Dieu saint. Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu, c'est le grand Dieu et on l'a lu tout à l'heure et David l'a bien cité. Il a le pouvoir sur toutes choses. Il nous donne la vie, il nous donne la respiration et l'aide. C'est lui qui un jour a décidé de notre naissance et c'est lui un jour qui va décider de notre mort. Beaucoup de chrétiens sont dans la tiédeur spirituelle. D'autres sont dans toutes sortes de compromis, dans la pratique du péché. On leur parle au travers d'entretiens, etc. Et au final, ils font ce qu'ils veulent. La parole de Dieu leur parle et ils continuent, ils persistent, pensant que le Seigneur cautionnera un pied à l'extérieur et un pied à l'intérieur. C'est exactement l'image de l'église de Laodicée, la dernière église qui a été citée parmi les sept églises du livre de l'Apocalypse, et certains commentateurs disent que c'est ni plus ni moins une prophétie que dans les derniers temps, avant le retour du Seigneur, il y aurait une telle tiédeur. Et Jésus va dire, puisses-tu être bouillant ou froid? Mais le Seigneur vient et il va séparer les choses. Il dit d'ailleurs que celui qui se sanctifie encore, mais que celui qui se souille encore. Mais je vais terminer par une bonne note quand même. Une bonne nouvelle, au beau milieu de ce marasme spirituel, Dieu, notre Père Céleste, a le pouvoir de nous affermir en toutes choses. Frères et sœurs, ce sera peut-être difficile, Peut-être c'est votre conjoint qui va abandonner les voies du Seigneur. Peut-être c'est vos parents, peut-être c'est vos enfants, etc. Mais il faudra que tu avances et que tu avances. La Bible dit que deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est ça la réalité. Et je n'ai pas, eh bien, je ne dois pas vous dire autre chose que ce que Dieu dit. Ce sont des avertissements. Il faut qu'on le prenne d'une manière solennelle. Mais bonne nouvelle, au beau milieu de ce marasme spirituel, Dieu a le pouvoir de nous affermir. Dieu, notre Père Céleste, a le pouvoir de nous rendre forts et inébranlables. Il a été fidèle jusqu'à cette heure. Il le sera jusqu'au bout. C'est pas vrai ou pas, frères et sœurs ? Un dernier verset, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est question d'être irréprochable. On ne pourra pas garder quelque chose dans la poche. On ne pourra pas garder une rancune au plus profond, cachée, enfouie au plus profond de notre cœur. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il rajoute, Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Quoi de plus rassurant que de réaliser que le même Dieu qui a été fidèle finalement tout au long de cette année 2017, eh bien il le sera également toute l'année 2018. Vous le croyez, frères et sœurs ? Pourvu, bien sûr, que nous restions attachés à lui. Pourvu, bien sûr, que nous ne tergiversons pas sur ce livre, le livre des livres. C'est ça qui sera le seul repère, frères et sœurs. La parole de Dieu demeurera éternellement. Elle nous accompagnera jusque dans l'éternité pour nous rappeler eh bien, que toutes les prophéties eh bien, qui avaient été annoncées eh bien, se sont parfaitement réalisées parce que Dieu est Dieu et c'est sa parole. Et quand Dieu parle, alléluia, sa parole est l'éternelle, elle produit la vie. Est-ce qu'on peut, frères et sœurs, ensemble se lever et demander au Seigneur qu'il puisse agrandir encore cette église, qu'il puisse affermir nos vies, qu'il puisse nous aider encore à aller plus loin et nous donner à vivre des choses glorieuses encore tout au long de cette année. Seigneur, nous voici devant toi. Ceux et celles que tu as rachetées, que tu as sauvées, et à quel prix ? Au prix merveilleux du sang précieux de Jésus. Nous sommes là, Seigneur, ce matin, c'est par l'effet de ta grâce. Nous avions peut-être toutes les raisons du monde pour aller à droite à gauche et Seigneur, Père, mon Dieu, ne pas être présent, mais Seigneur, mon Dieu, nous avons choisi d'être là. Et quel privilège ! À tes pieds, à l'écoute de ta parole. Tu nous rappelles que tu es le Dieu, alléluia, qui, alléluia, le pouvoir de toutes choses. Tout, Seigneur, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, t'appartienne, a dit, Seigneur, le grand roi David. Et il savait ce qu'il disait, et nous le croyons également. Mais tu nous rappelles ce matin que tu as le pouvoir d'agrandir toutes choses. Tu as le pouvoir, Seigneur, d'affermir toutes choses. Nous voudrions pas être, Seigneur, ce matin dans la crainte, ni dans le trouble. Mais, Seigneur, continuer à regarder vers toi. Et, Seigneur, chaque jour, savoir pleinement, Seigneur, compter sur ta grâce. Parce que c'est elle qui va nous donner à aller jusqu'au bout du voyage. Seigneur, je te prie alors d'agrandir cette église. Seigneur, viens accroître notre champ de vision. Viens accroître encore, Seigneur, notre amour les uns pour les autres. Donne-nous, Seigneur, Père, à ne pas être des pseudo-chrétiens, mais de véritables chrétiens. Et par excellence, le chrétien, il se qualifie, se caractérise par l'amour, Seigneur, dont il est empreint. Seigneur, mon Dieu, oh viens, Seigneur, mon Dieu, tout comme l'église de Thessalonique, que nous soyons débordants d'amour. À commencer par le maire et tout, Seigneur, mon Dieu, les habitants, Seigneur, d'Israël, toutes les fois où ils viennent parmi nous, ils puissent sentir. Et Seigneur, puisse palper, puisse toucher physiquement, Seigneur, cet amour. Qu'ils soient bouleversés par cet amour et que ça leur donne, Seigneur, à te découvrir, toi, le Dieu de l'amour. Oh Seigneur, Père, je te prie d'affermir mes frères et mes sœurs. Nous voudrions pas accepter toute forme de compromis. Nous voudrions marcher, Seigneur, de victoire en victoire. Nous voudrions être ces combattants. Nous voudrions être, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu qualifies comme des vainqueurs, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu étais vainqueur, même jusqu'à la mort de la croix. Tu étais vainqueur triomphant. Et nous voudrions, Seigneur, entrer dans ton sillage et vivre cette victoire. Seigneur, nous refusons toute forme de compromis. Nous refusons, Seigneur, toute forme, Seigneur Père, mon Dieu, Seigneur, de duplicité dans nos vies. Nous refusons toute forme d'iniquité, Seigneur. Mais nous voudrions plus que jamais rester attachés à toi. Seigneur, parce que tu viens bientôt chercher ton église, que tu qualifies d'irréprochable, de belle, Seigneur, pure et sans tache. Seigneur, nous voici devant toi. Et pour cela, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, transforme-nous, change-nous. Fais-nous grâce, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Amen.